Un tango, une danse, un baiser.
Du bouda, bébé, bébé, bébé. Par les temps qui courent.
Ça y est, puis va-t-il
Marie Richefeu.
Et c'est seulement dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Plusieurs fois, j'ai vu des centaines, ils étaient peut-être des milliers, d'éperviers ou des tourneaux quitter le toit de l'une des quatre tours de la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, pour se jeter presque à pic dans la forêt d'arbres au cœur du bâtiment. Lorsque j'y suis retournée la semaine dernière pour visiter l'exposition que la BNF consacre à sa propre architecture, il m'a semblé que la forêt de tables et de chaises ici entreposées était un miroir possible à cette forêt-jardin devant laquelle on peut rêvasser entre deux lectures. Dominique Perrault, c'est vous qui étiez choisi à la toute fin des années 80 pour réaliser ce grand projet. Et si l'architecture est un récit, il n'est pas anodin que cette fois-ci, on aille de l'arbre au livre. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Dans cette exposition, on voit, comme je l'ai dit, du mobilier, par exemple les tables et les chaises, des œuvres de Kaël Loriot-Prévost, mais aussi des plans, des maquettes, des dessins, des archives filmées, des films, je pense, beaucoup plus contemporains sur grand écran pour des expériences assez immersives. Et puis, une forme comme ça de possibilité d'entrer presque dans la tête d'un projet. Est-ce que c'est finalement assez courant qu'une exposition propose à ce point de désosser un bâtiment ?
Non, c'est tout à fait unique. C'est relativement rare que du vivant d'un architecte, cet architecte soit invité par l'institution et en particulier par la Bibliothèque nationale en l'occurrence pour présenter le processus qui a fait naître ce projet, qui l'a développé et ensuite qui a suivi sa réalisation. 10 ans de travail. 10 ans qui sont présentés et qui accompagnent, ou plus exactement peut-être qui révèlent une face cachée de cette histoire, car cette histoire a été évidemment très marquée, très connue. Elle a vécu des polémiques, elle a vécu beaucoup d'événements politiques aussi. Mais cette histoire avait un autre versant qui était celui du travail, de la production, de la conception à la réalisation, comme je disais tout à l'heure, du chantier. Absolument, des milliers de personnes ont travaillé sur ce projet. Il y avait 22 grues sur ce site, c'est-à-dire plus de 2000 ouvriers qui construisaient en permanence ce bâtiment dans un délai extrêmement court. Vous preniez un café, un sandwich à l'heure du déjeuner, et 2500 mètres carrés étaient construits en revenant. Donc, si vous voulez, il y avait un rythme qui était un rythme très particulier et à une concentration aussi, évidemment, de tous les acteurs pour être à l'heure, c'est-à-dire fin avril 1995, pour que ce bâtiment puisse être évidemment inauguré par François Mitterrand, qui en est le commanditaire, mais aussi qu'il puisse petit à petit être aménagé, accueillir les livres, et donc en 1998, être entièrement ouvert à tous ces publics, et c'est pour cela qu'on fête les 20 ans. Donc, l'exposition parle de ces 20 ans en contrepoint, un peu en miroir, 20 ans d'utilisation, de développement, de numérisation surtout aussi des fonds de la bibliothèque. Donc, un public renouvelé, un public qui ne cesse pas visiblement de croître, si on en croit les chiffres.
Ah, les salles de lecture étaient saturées quand j'y suis allée la semaine dernière.
Donc vous témoignez qu'il y a un succès absolu de ces lieux qui était assez inverse au début. C'est tout à fait intéressant parce que les premiers temps, c'était plutôt la bibliothèque que l'on appelait de lecture publique, c'est-à-dire celle qui se trouve dans le houppier des arbres, dans le haut de jardin, qui elle était saturée. Et puis, chemin faisant, les salles de recherche se sont installées et ont trouvé aussi leur public. Et il faut dire que celles sont très prisées, effectivement. Aujourd'hui, ce sont les salles de recherche qui ne cessent de croître et embellir en termes d'attrait et de consultation.
Alors, on va aller plus avant, évidemment, dans l'histoire de ce bâtiment, dans la construction, dans le projet, dans le travail, dont vous disiez, Dominique Perrault, qu'il est rarement donné à voir et que dans ce cas précis de ce site, François Mitterrand pour la BNF, il a souvent été vraiment dans l'ombre par rapport à tout ce qui a pu se dire médiatiquement sur ce bâtiment. Mais peut-être encore un instant à s'attarder sur la forme d'une exposition qui est donc assez rare, se consacrer non seulement à un seul architecte, mais dans le bâtiment et à un seul projet. Vous l'avez imaginé comment, cette exposition ?
Il fallait que ce soit, un marqueur. En fait, lorsqu'on lit ou relit cette période, c'est une période de passage dans beaucoup de domaines. Et j'en prends à témoin la chute du mur de Berlin en novembre 89. Donc nos territoires s'élargissent, la perception de notre monde s'élargit, la numérisation arrive, le digital. Il n'est pas encore en place complètement, comme on le connaîtra dans les années 2000. Mais c'est un passage qui est à l'œuvre. Et ce passage, nous l'avons vécu, nous, architectes, ingénieurs et constructeurs, entre des dessins à la main. Et ce que montre l'exposition, ce sont ces dessins à la main, c'est cette fabrication assez artisanale, mais réfléchie, parce que lorsque vous dessinez à la main, refaire et défaire, c'est du travail, beaucoup plus que lorsque vous travaillez avec un ordinateur. Donc il y a là une attention qui est portée à la fabrication des supports, des objets, que ce soit des prototypes, que ce soit des maquettes, que ce soit des dessins en couleur, au feutre, les esquisses des perspectives. Il n'y a pas que les perspectives abouties, il y a aussi les dessous, si je puis dire, ce qu'on appelle les sous-culs en langage beaux-arts, de ces perspectives où on voit les traits qui s'esquissent et le point de vue qui est choisi. Donc cette exposition, elle est, à mon avis, tout à fait passionnante, si j'en crois d'ailleurs les réactions des architectes qui ont 30 ans ou même plus jeunes, car ils n'ont pas connu.
C'est-à-dire un marqueur de temps, finalement, pour nous autres qui découvrons cette exposition. C'est presque une exposition, mais on va revenir sur le métier d'architecte. Mais puisqu'elle est nourrie d'archives, on va en écouter.
Je veux que soit entreprise la construction et l'aménagement de l'une des ou de la plus grande et de la plus moderne bibliothèque du monde. Alors, je veux une bibliothèque qui puisse prendre en compte toutes les données du savoir dans toutes les disciplines, et surtout qu'ils puissent communiquer ce savoir à l'ensemble de ceux qui cherchent, de ceux qui étudient, de ceux qui ont besoin d'apprendre. Toutes les universités, les lycées, tous les chercheurs qui doivent trouver un appareil modernisé, informatisé, et avoir immédiatement le renseignement qu'ils cherchent. On pourra connecter cette bibliothèque nationale avec l'ensemble des grandes universités de l'Europe, et nous aurons alors un instrument de recherche et de travail qui sera incomparable. J'en ai l'ambition et je le ferai.
C'est la voix de François Mitterrand et c'est un extrait du film de François Roudoux, La Bibliothèque nationale de France, une histoire. Je crois que c'est le titre
exact,
du film. Dominique Perrault, dans cette archive de François Mitterrand, on entend « je le veux, je veux, je vais le faire, je le ferai ». Est-ce que vous avez eu l'impression, avec ce projet, de répondre à la volonté d'un homme plus qu'à une commande publique ?
Oui, c'est un commanditaire, il est dans sa fonction, il représente l'État, il représente aussi le pays.
Mais ce « je » est tellement fort, et terminé par « je le ferai ».
Oui, mais c'est l'engagement d'un président au regard du monde de la culture et du patrimoine national. Je trouve que l'expression est juste, car il faut la porter. Il faut l'assumer, il faut le vouloir vraiment, sincèrement, profondément. Et lorsqu'on entend cette déclaration, elle est vraiment elle se positionne comme une déclaration d'engagement d'une personne au regard d'un pays et au regard d'une culture. Donc, il a porté ce projet, il l'a porté avec, si on écoute ou on réécoute cette déclaration du 14 juillet 1988, il il y a le mot communiquer à tous, communiquer largement.
Connecter même. Il dit connecter.
Exactement.
Vous parliez de la période de passage que représente la fin des années 80 et évidemment à l'aube des années 2000 et de l'avènement de l'informatique et de la numérisation. Mais j'étais très étonnée d'entendre tous ces termes-là en 88 dans la voix de François Mitterrand.
Oui, et derrière ces mots, il y a un autre mot qu'il a prononcé plusieurs fois dans les échanges que nous avons eus en permanence durant les 5 années de la réalisation du projet. C'est le mot de construire, d'édifier, de créer un lieu d'étude. Et je pense que ce terme rassemble parfaitement ce qui a été dit et entendu de la part du président de la République, c'est-à-dire utiliser tout ce qui est à notre portée, si je puis dire, pour que la Bibliothèque nationale soit évidemment un lieu de conservation, car c'était la première urgence, c'était la première mission qu'il fallait mettre en œuvre pour sauver le patrimoine de la Bibliothèque nationale, qui était dans un état difficile. Et la deuxième mission, qui est la mission de communiquer, elle s'inscrit par rapport à un lieu d'étude. Et ça, pour un architecte, c'est la plus belle commande qui puisse exister. Construisez-moi un lieu, monsieur l'architecte. Et cette Bibliothèque nationale est un lieu, il est perçu, il est reconnu comme tel, et c'est pour cela que on ne cesse d'y venir. Bien sûr, le fond est absolument est un trésor, mais le fait de pouvoir travailler seul ou à plusieurs, le fait de pouvoir échanger de sa place avec d'autres et d'autres lieux aussi, il y a dans l'inscription de la Bibliothèque nationale une inscription physique qui est quelque chose que, comment dirais-je, qui permet d'être installé au regard du réseau, au regard de toute la numérisation et du monde de la digitalisation des documents, qui fait qu'on a cette capacité à travailler seul au milieu des autres.
Et d'ailleurs, on y reviendra, mais il me semble que vraiment, même dans la manière dont vous parlez là et décrivez le lieu en parlant de l'install, des assises, des chaises, des bureaux, des étagères qui jouent beaucoup dans la possibilité de s'installer au cœur d'un réseau. Mais Dominique Perrault, vous dites, pendant ces 5 ans, je n'ai eu de cesse d'échanger avec le président François Mitterrand. Vous notez 21 fois. Ces échanges étaient de quel ordre? Quand je dis tout à l'heure, avez-vous répondu au désir d'un homme ou à la commande publique? Évidemment, un petit peu des deux. Il se trouve que vous discutiez, vous échangez en tant qu'architecte choisi avec un homme éminemment lettré. Est-ce que ça changeait vos échanges? Est-ce que le fait de discuter avec quelqu'un pour qui lieu d'étude veut aussi dire quelque chose personnellement et intimement changeait la nature de vos échanges?
Ça les nourrissait dans le sens où le président de la République était un président de deuxième mandat. C'est pas neutre. C'est-à-dire que durant le premier mandat, les grands travaux lancés, menés par François Mitterrand et Jacques Lang sont des grands travaux qui s'attachent à plusieurs œuvres et mises en place de nouveaux monuments, en particulier évidemment sur le territoire de Paris. Le deuxième mandat est un mandat différent, car c'est un mandat où le président est le président. Je dirais en plénitude. Dans le sens où il n'y a pas de futur mandat, il y a un environnement qui est un environnement de rayonnement de la politique engagée et de la mise en place finalement d'un certain nombre de projets, dont celui de la bibliothèque.
Il n'y a tellement pas de futur mandat qu'il se sent en plus malade et que ce n'est pas sans conséquence ou sans impact sur la manière dont il visualise
ce n'est certainement
le futur
pas
ou son action.
Conséquence, mais je trouve que lancer un projet comme un projet d'une bibliothèque nationale est assez juste par rapport à cette chronologie de l'histoire. C'est le seul grand projet du deuxième septennat. Et je dis ça parce que il ne l'a pas porté tout seul au sens de l'État, puisque s'organise autour de lui des hommes de très grande compétence comme Émile Biasini, qui est quand même nommé secrétaire d'État pour construire la bibliothèque du président, Serge Goldberg, qui dirige l'établissement public, qui est un très grand constructeur, grand commis d'État. Donc il y a aussi l'enseignement du premier septennat qui est tiré, et ces hommes ont à cœur et à charge de mener à bien ce projet de bibliothèque nationale.
D'ailleurs, donc, en témoignent les archives, je me suis vraiment dit, ces hommes, quelle équipe masculine ?
Oui, ces hommes, oui, absolument, c'est très masculin, hein, c'est vrai. Bon, ensuite, il y a d'autres... Il y a Hélène Westbord par ailleurs, il y a d'autres personnes.
Non, mais ça signe une époque aussi, mais c'est politique, vrai, c'est très fort, hein, dans les images de l'exposition.
Voilà, Dominique Jamais, président de l'établissement public constructeur, etc., Emmanuel Leroy-Ladurie, mais il y a Jacqueline Sanson, qui connaîtra le début du projet jusqu'à encore aujourd'hui, qui a été la grande bibliothécaire à l'œuvre pour la réalisation de cette nouvelle bibliothèque, mais aussi le passage de la bibliothèque Richelieu, de tous les cris de la bibliothèque Richelieu jusqu'à Tolbiac. Donc c'est vrai qu'il y a cette équipe, et cette équipe est animée par le président, et la relation entre l'architecte et le président est une relation de proximité, car comme je le dis toujours, je me suis allé trois fois à l'Élysée, une fois pour choisir la couleur de la moquette, une fois pour partager un panier de charcuterie, et une autre fois, je ne sais plus pour quelle occasion, les autres fois, donc ça représente quand même une quinzaine,
beaucoup
17
plus de fois,
enfin,
oui, bien sûr.
Bon, bref, un certain nombre de fois, c'est le président qui est venu en visite privée, c'est-à-dire seul ou accompagné de son secrétaire d'État, pour voir nos dessins, pour voir nos travaux. Il est venu dans notre agence, dans notre atelier. Il voulait savoir, il voulait voir, il voulait toucher. Beaucoup de visites sur le chantier, beaucoup de relations, je dirais, très, très tactiles, c'est-à-dire la définition, comme je l'évoquais tout à l'heure, de ce lieu d'étude, évidemment d'un point de vue intellectuel, du point de vue de sa relation que lui-même avait avec la culture et avec les livres, mais surtout dans cette vision que cette nature qui lui était proposée et qu'il a portée, c'est-à-dire ce cœur, hein, du cœur que représente le jardin de la bibliothèque, qu'il a sanctuarisé, puisque c'est un jardin intouchable, mais c'est un jardin qui se développe de par sa propre nature, de par sa propre logique biologique d'une certaine façon, eh bien, le président voulait mesurer, comprendre comment on allait s'asseoir, comment on allait lire, les questions d'acoustique, les questions de relation avec les magasins de stockage, la relation avec le ciel, la relation avec les arbres, etc. Et donc, il y avait vraiment une attitude extrêmement exigeante et soucieuse et passionnante aussi pour, évidemment, pour, dans l'échange avec l'architecte, de la physicalité, finalement, de ce que t'es un lecteur dans une bibliothèque nationale.
Mais puisque vous parlez de la relation avec le ciel, et j'entends ça évidemment parce que on y reviendra, ce que vous proposez n'est pas qu'un bâtiment, mais une proposition urbanistique aussi, d'inscription dans la ville. Mais la relation avec le ciel me fait penser à ce mot de cloître, au son duquel François Mitterrand avait, semble-t-il, tendu spécifiquement l'oreille. Le mot de cloître, il est utilisé, je me souviens plus, dans le premier texte que vous produisez, Dominique Perrault ? Ou simplement, ça fait partie du vocabulaire qui entoure votre proposition et le projet que vous lui soumettez ?
Oui, le terme de cloître est présent extrêmement tôt. La référence urbaine, c'est-à-dire que, en fait, le décalage, si on revient à la proposition au moment du concours d'architecture, le décalage par rapport aux autres propositions, disons, des architectes, s'opérait surtout parce qu'il y avait un dispositif urbain, ou tout au moins un dispositif qui permettait d'attendre que la ville rejoigne le monument. Et ce dispositif s'appuyait sur deux espaces majeurs de Paris. Un qui est totalement extraverti, qui est un espace ouvert, qui est la place de la Concorde, entre autres, mais ça pourrait être aussi dans la logique du Champ de Mars ou des Invalides. Ces espaces vides, perpendiculaires à la Seine et qui permettent de passer d'un côté à l'autre, mais aussi d'y rassembler un grand nombre de personnes. Et puis un autre espace beaucoup plus introverti qui renvoie au cloître, qui est le Palais Royal. Et donc là, si je puis dire, le collage d'une certaine façon, la cohabitation de ces deux espaces, l'espace ouvert, centrifuge que représente l'esplanade, qui va attendre et tendre, si je puis dire, de par ses vides, la possibilité que le quartier se construise autour de la bibliothèque et l'espace du cloître à l'image du Palais Royal, donc introverti et plutôt centripète, est quelque chose qui crée en fait un monde qui est pas seulement un monde qui fabrique un monument, qui répond à un programme d'une bibliothèque nationale, mais aussi un monde qui parle du développement de Paris de l'ouest vers l'est.
Alors, où se situera justement cette Bibliothèque de France ?
Alors, l'endroit, c'est entre le pont de Bercy et le pont de Tolbiac, sur la rive gauche de la Seine, face au parc de Bercy. Il faut bien dire qu'à l'heure actuelle, et c'est bien pour ça que cet endroit a été choisi, ça n'est pas une zone très fréquentée par les Parisiens. On est un peu on est à deux pas du cœur de Paris, on est à deux pas du Paris historique, et on est dans une zone où les Parisiens ne mettent jamais les pieds car il n'y a rien.
Quand j'employais le mot vide dans des conférences, on me disait toujours c'est angoissant. Et puis quelque temps après, j'ai lu Lao Tzu, tout à fait par hasard. Il y a deux poèmes célèbres où il dit, je ne sais pas s'il faut les appeler poèmes, il dit en substance, ma maison, ce n'est pas les murs, ce n'est pas le toit, ce n'est pas le sol, c'est le vide entre ces choses parce que c'est là que j'habite. Il dit aussi, le vase, ce n'est pas la terre cuite, c'est le vide que la terre cuite enferme. Voilà. Quand après, je disais aux gens, je veux vous parler de l'espace et du vide, je citais Lao Tzu, alors on venait, on me disait, ah, c'est très bien, j'ai compris quelque chose avec votre Lao Tzu. Voilà. Il faut une périphrase pour arriver à se comprendre, tant le mot espace, tant le mot vide sont à la fois plein de significations variées, polysémiques, comme on dit, et sont parfois des notions qui vont vers l'angoisse du très grand, du non-fini, etc.
Dominique Perrault, deux voix qui se répondent sur une œuvre musicale de Dominique Bartassa, d'ailleurs composée aussi pour un lieu et où on entend mélange d'instrumentation et d'oiseaux. Ces deux voix, ce sont celles de Dominique Jamais qu'on a évoqué, archive d'époque, qui dit finalement la Bibliothèque nationale de France arrive dans un lieu où il n'y a rien. Ce n'est pas rien de dire ça. Et ensuite, la voix de Christian Peurzempaf qui parle de son rapport au vide, peut-être sublimé ou révélé par la lecture de Lao Tzu. Alors, si on prend ces deux archives, finalement, on fait de vous jeune architecte choisi par le président de la République française fin des années 80 pour faire une bibliothèque dans le 13e arrondissement qui propose de faire un vide dans du rien. C'est pas rien.
Mais c'est pas le néant.
Mais c'est pas le néant.
Alors, les deux propos s'enchaînent, effectivement, entre le propos de Dominique Jamais et de Christian de Peurzempaf. Prenons le premier. Si je fais un petit retour sur la période, nous sommes à un moment de l'histoire de la transformation des villes, en France en particulier, où des nouveaux territoires apparaissent. Ce sont des territoires qui ont souvent été laissés à l'abandon. Et ils apparaissent comme étant le futur du développement de la ville. Je ne parle pas de la métropole, j'y viendrai après. La bibliothèque à Paris en fait partie, comme à Nantes, où je travaille sur l'île de Nantes avec Jean-Marc Ayrault à l'époque, où on reconquiert ce territoire en le nommant. Et aujourd'hui, c'est un des grands territoires au cœur de la ville de Nantes. À l'époque, ce n'était rien.
Mais justement, quand on dit ce n'était rien, on dit quoi ? Parce que ce n'est jamais rien. Les endroits ne sont jamais rien.
Si,
ce sont des friches, oui. Ce sont des territoires qui sont éventuellement laissés. Mais c'est-à-dire, quand on dit rien, on dit aussi il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'espace. Alors qu'en fait, ce sont des endroits où il y a de l'espace défini et de l'histoire.
Oui, c'est tout à fait juste. Mais on dit c'est rien parce que ce sont souvent des lieux de douleur. Par exemple, l'île de Nantes, qu'est-ce que l'île de Nantes ? C'est au-delà de l'esclavage, etc., qui est encore une douleur plus antérieure, si je puis dire, dans le temps, c'est la fermeture des chantiers navals. C'est pour Nantes, où il y avait cette activité immense au cœur de la ville elle-même, les chantiers s'arrêtent. Donc il y a une notion de rien au sens du néant. C'est-à-dire, c'est quelque chose, ou de la perte.
De exactement. Rien qui n'est plus.
Voilà, qui n'est plus. À Bordeaux, pour donner une autre ville où j'ai également travaillé, sur les deux rives, l'idée, avec Jacques Chaban-Delmas, de lancer le projet des deux rives, fait naître l'autre rive, qui était une rive plutôt, là aussi, assez abandonnée, industrieuse, plutôt marécageuse, face à la ville de Pierre. Et donc, l'idée d'avoir de part et d'autre de la Garonne, ces deux quartiers, ces deux parties de villes qui n'en font qu'une, et quelque chose qui fait partie de la révélation, et là aussi, d'un lieu plutôt laissé à l'abandon, qui va revenir comme étant un des lieux de développement et d'espoir et du futur de la ville. À Paris, même chose. En fait, Jacques Chirac, à l'époque, mène une politique extrêmement volontariste de rééquilibrage de la capitale de l'Ouest vers l'Est. À l'Est, peu de choses. Beaucoup d'espaces de très mauvaise qualité, des constructions aussi de mauvaise qualité, des espaces là aussi à l'abandon. Et la bibliothèque est en fait, d'une certaine façon, une vision convergente, assez, tout à fait consensuelle, entre l'État, donc le projet de François Mitterrand d'y installer et d'y inscrire la nouvelle bibliothèque nationale, projet public, projet d'État, germe d'un nouveau quartier qui va se développer, porté, lui, par Jacques Chirac, maire de Paris, et qui va urbaniser 2,5 km de bord de Seine, ce dont on ne se souvient plus. 2,5 km de bord de Seine, c'est le tiers, ou pratiquement, de la traversée de la Seine dans Paris. La traversée de la Seine dans Paris, c'est 8 km. Donc 2,5 km de friches, d'entrepôts, de réseau ferroviaire. Lorsque nous commençons le chantier, nous tirons des canalisations sur 4 km, des lignes électriques sur 2 km. Ce sont des terres qu'il faut aménager, qu'il faut urbaniser. Et ce mouvement, si vous voulez, dans les villes en France, dans la deuxième partie et la fin du XXe siècle, est un mouvement qui est annonciateur d'une autre transformation qui n'était pas dans les esprits à l'époque, qui est le passage de la ville à la métropole. C'est-à-dire que lorsque Paris va avoir urbanisé l'ensemble du bord de Seine, du périphérique au périphérique, il y aura encore le quartier des Batignolles, il y a encore quelques éléments, mais Paris a fait sa mission, si je puis dire.
Il est prêt pour le Grand Paris, quoi, en gros.
Exactement, et le passage est donné, au moins pour aller dépasser le périphérique en frange, mais petit à petit pour aller bien plus loin. Et donc le Grand Paris se met en place. Et ce n'est pas seulement le Grand Paris, mais c'est la notion de métropole. Bordeaux, Strasbourg, Lille, etc., Nantes, Marseille, toutes ces villes se transforment de villes en métropole. Donc ces développements sont en fait la phase 2, si je puis dire, de l'après-grands travaux.
Et du projet que vous avez en tête à la fin des années 80, c'est-à-dire lorsque vous dessinez, lorsque vous répondez à cette commande, vous voyez déjà, Dominique Perrault, que c'est un trait d'union vers une époque qui arrive ?
Non. Par contre, ce qui est parfaitement déclaré, c'est que il va y avoir un nouveau quartier. Ce quartier est un quartier qui est assez complexe parce que il y a des grands débats à l'époque. Le journal Le Monde, d'ailleurs, pour ne pas le citer, prend position pour le déplacement de la gare d'Austerlitz en limite d'Ivry, ce qui aurait été nous étions nombreux à soutenir cette position, ce qui aurait été absolument, extraordinaire et tout à fait positif pour le développement de cette partie du 13e arrondissement. Donc il y a un réseau ferré, il y a une topographie, il y a les tours du 13e en partie haute, il y a les sablières le long de la Seine. Donc c'est un quartier d'infrastructures. Et il faut transformer ces infrastructures en architecture. Et la bibliothèque se prête au jeu, si je puis dire, comme étant le grand témoin de cette possible transformation, avec un dispositif qui est un dispositif de socle, qui lui interroge les infrastructures pour créer des lieux qui soient des lieux, je dirais, d'accueil et de durabilité, où ça permet de gérer, si je puis dire, un certain isolement par rapport au bruit de la ville et même, d'une certaine façon, aux odeurs de la ville, puisque autour de ce jardin, on prend l'air dans le jardin. Donc, l'air de la bibliothèque est un air, entre guillemets, parfumé au pain sylvestre. Donc, il y a une relation qui est une relation de confort dans un problème pour le bâtiment lui-même, mais aussi une relation d'ouverture et surtout sur des futurs qui ne sont pas déterminés et prédéterminés à l'époque puisqu'il n'y avait aucun plan d'urbanisme. Et donc le vide.
Justement, j'allais venir à la deuxième archive, en effet, et à cette lecture de Lao Tzu et l'idée que la maison n'est pas la pierre ou le bois, mais le vide. Et que le pot en terre n'est pas non plus la poterie ou la terre cuite, mais tout l'air qui l'entoure.
Alors, le vide, si on le considère comme étant un matériau, c'est ce que je pense, a cette capacité à être. On a une relation avec le vide qui est une relation assez anxiogène, assez le vide, on l'évoquait tout à l'heure, ça peut être le néant, ça peut être un endroit d'inconfort, etc.
Ça peut être l'espace.
Ça peut être l'espace, mais l'espace qui n'a pas de statut est un espace plutôt angoissant. Un espace qu'on se perd. Alors que le vide, en architecture et également dans la construction, si on peut dire, de la ville et de la métropole, a un statut. C'est-à-dire qu'il a un rôle à jouer dans la relation entre les choses. Et c'est ce que dit Christian de part en part, en citant Lao Tzu, c'est-à-dire que le vide, organise en fait cette préoccupation que l'on a en permanence de distance entre les choses, qui ne sont pas des distances qui séparent, mais ce sont plutôt des distances qui font être, qui font exister. Et donc le vide, en tant que matériau, se travaille, se définit, s'installe, se qualifie, et cette notion d'éléments immatériels est en fait la deuxième composante essentielle de notre vie, mais en particulier de l'architecture, avec la lumière. C'est-à-dire que l'architecture fonctionne en regard de deux éléments immatériels, le vide, c'est-à-dire l'air, l'espace, et la lumière. Et ce travail, en fait, qui réduit à deux éléments premiers l'architecture, permet de développer d'autres approches et d'élargir notre monde en allant vers le dessous, dans l'épaisseur de la ville, qui là aussi est un lieu de ressources, qui permet, comme nous le dit la bibliothèque, qui permet en fait de multiplier les épaisseurs de sol, tout en ayant de la lumière naturelle, tout en ayant du confort et de la durabilité, puisqu'il y a une inertie dans le sol que nous ne trouvons pas dans les hautes sphères des tours ou des gratte-ciels. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire en hauteur, mais ce qui veut dire qu'il faut créer des racines pour nos bâtiments. Plus ils sont hauts, plus le réseau doit être étendu, un rhizome. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Dominique Perrault, quelles étaient les intuitions en termes de vide et de lumière? Donc, si je crois ce que vous venez de dire, les deux composantes de l'architecture de manière générale, quelles étaient vos intuitions sur ces deux domaines concernant la BNF? Vous êtes dit quoi avant qu'on rentre dans le dur du dessin, du plan, du projet, du chantier? Est-ce qu'il y avait des idées?
Moi, je viens d'une école, enfin, j'ai mes études, mais aussi les passions que j'avais par rapport aux architectes, se focaliser sur Mies van der Rohe ou bien Louis Kahn. Et un de mes maîtres à l'école, un de mes professeurs, était Martin van Treck, qui est un architecte allemand qui est aujourd'hui disparu. Et il m'avait appris à transformer les mètres carrés en mètres cubes. C'est ce que l'on fait dans le monde entier. En France, on travaille plutôt avec un calcul en mètres carrés.
C'est-à-dire introduire l'espace.
C'est-à-dire la troisième dimension. C'est-à-dire qu'on multiplie par la hauteur les mètres carrés et ça nous donne un volume. Et lorsqu'on se prête à cette opération, ce que j'ai fait de par mon éducation de l'école, j'ai donc transformé les mètres carrés de la bibliothèque en volume. Et j'ai obtenu une espèce de masse énorme. Et lorsque je l'ai installé sur la maquette d'études que j'avais fabriquée, c'était vraiment un monstre. C'était vraiment pas possible. Et donc, par un espèce de réflexe presque immédiat, quoi, j'ai cherché à faire disparaître ce volume, ou tout au moins à le rendre possible au regard d'un environnement qu'on ne connaissait pas, mais qui était complètement contraint, ou qui aurait été complètement contraint par la présence de cet immense bâtiment, immense volume de bâtiment, puisque ça correspond sensiblement, pour donner une dimension, trois fois le centre Georges Pompidou mis bout à bout. Donc c'est volé, lorsque vous en faites le tour, il faut quand même prendre son élan. Donc, pour faire naître un quartier... Ouais. C'est difficile. Et donc la solution, tout au moins le mouvement, c'est en fait d'incruster dans le sol une partie du bâtiment. Les deux tiers ont été installés dans le sol de façon à faire disparaître, si je puis dire, le volume, sans pour autant...
Pénaliser le besoin de stockage.
Et ne pas en perdre
la
présence et répondre au programme lui-même, qui est un programme parfaitement établi et parfaitement fonctionnel. Donc, cette idée que l'architecture puisse s'installer sans autorité, puisqu'elle disparaît, est un sujet que plaide la bibliothèque. C'est-à-dire, la bibliothèque dit, je suis un bâtiment culturel, je suis une institution, mais je n'ai pas de mur, je n'ai pas de colonne, je n'ai pas de grille qui m'entoure, il y a un accès direct, je peux passer au travers, j'ai une espèce de fluidité, de comportement ouvert sur un extérieur qui est aujourd'hui connu, mais qui, peu importe, pourrait se transformer aussi. Donc je donne, et c'est aussi d'une certaine façon une des missions du bâtiment public, c'est-à-dire d'apporter à la ville un espace public caractérisé, avec sa spécificité, avec son statut d'espace public, afin que les quartiers puissent l'utiliser, vivre avec, dans une notion d'urbanité, comme on aimait à le penser au XIXe siècle.
C'est une charpente assez classique, c'est pas une charpente difficile. Les plans, ils étaient clairs. Non, la construction même, c'était une construction bien, bien calculée pour les forces de vent qui peuvent régner ici et les hivers qui sont durs. Cette stock de bois, tu te dis, mais on va jamais pouvoir porter ça, surtout sur un terrain qui est spongeux, qui est inégal, tu sais même pas où est un chemin. Alors, tout ça, c'était un lourd fardeau au début, mais je crois que le fardeau est tombé à le moment qu'on était arrivé sur cette île grandiose, où chaque fois que tu as fait un effort, tu regardes, et c'est de telle beauté que ce fardeau, c'est pas une chose qui s'accumule, quoi. C'est chaque fois t'as un petit repos pour les yeux, pour les oreilles, et chaque fois tu reprends un bout de bois et hop, tu vois, tu penses plus.
Une menace présent, bon, surtout moi qui suis en bateau, je suis sans doute plus sensible encore, parce qu'il y a une partie de sécurité qui est liée au vent. Et il y a. Bon, on pourrait dire que le vent habite l'île des États, quoi, il fait ce qu'il veut. Quelle que soit la direction du vent à l'extérieur, l'île des États soit en rajoute, soit en arrête, soit en invente, change de direction, fait des brouillards, des nuages, enfin il y a. Le vent mène le jeu, ouais, sur l'île. De toute manière, les arbres, tout est couché par le vent. Tout est...
C'est une pièce musicale qui s'appelle Le Chantier, qui est signée Pascal Ducourtiou et qui provient d'un disque qui s'appelle Le Blues du Phare du Bout du Monde. Et alors, c'est un chantier qui a lieu sur l'île des États, une île impressionnante en effet, et qui est absolument, comme beaucoup d'îles, on va dire, à minimum léchée par de nombreux vents. Dominique Perron, on voulait vous faire entendre cette pièce musicale, d'une part pour que vous nous livriez quelques souvenirs du chantier de la Bibliothèque nationale de France, mais aussi pour qu'on puisse entendre avec vous la place des éléments naturels et dans ce chantier et dans l'espace public dont vous parliez à l'instant. Dans l'introduction, j'ai parlé des arbres, j'ai parlé des oiseaux et vous parliez vous aussi de ce jardin qui poursuit son cours. Et évidemment, qui connaît ce site et qui le fréquente souvent peut dire qu'il y souffle un vent quasi breton qu'on trouve dans aucun autre endroit de Paris et que, en tout cas, pour ma part, ça en fait sa très grande, je sais pas, sa très grande richesse. Alors le chantier.
Le chantier, mais un mot sur le vent, parce que le vent organise beaucoup ou désorganise, enfin suivant s'il est clément ou violent. Et j'ai un souvenir qui est un souvenir qui m'a beaucoup marqué évidemment et impressionné. C'est le travail que l'on a fait pour réaliser ce jardin, un travail, je dirais, très très précautionneux, un travail de bon élève. On a fait tous les relevés, on a transporté les arbres un à un, on les a soignés. Enfin, c'était vraiment parfait du point de vue de la fabrication.
Et on voit ces images, hein, vraiment, avec des arbres qui sont maintenus droits. C'est assez impressionnant parce que vous ne faites pas advenir un jardin de rien. Vous amenez une forêt dans un jardin et dans une proposition.
Oui, c'est une nature qui n'est pas naturelle. Enfin, d'ailleurs, il n'y a plus de nature naturelle aujourd'hui puisque nous sommes dans un monde fini. Donc c'est une nature qui est construite comme un bâtiment avec des grues, etc. Donc le processus est en lui-même très, très, très fascinant et très impressionnant. Mais ce qui est pour moi ce qui était le plus impressionnant et le plus fascinant, c'est la tempête qui a eu lieu. C'est pour ça que je voulais revenir au vent. La tempête qui a eu lieu quelques années plus tard, qui a abattu beaucoup d'arbres, et le jardin de la bibliothèque a été touché par cette tempête. Et donc évidemment, j'étais prévenu qu'il y avait eu un petit ouragan, disons, dans le jardin, et que évidemment il y avait quelques arbres qui avaient été touchés. Et j'ai mis presque 2 jours. Hein, je voulais pas y aller. Ça m'inquiétait. Enfin, j'avais pas envie de voir ce jardin détruit, et je m'en faisais une idée totalement, certainement. Ça me faisait peur, quoi. Voilà. Et j'y suis allé, et ce que j'ai découvert était extraordinaire. Parce que le vent avait fait le travail que nous n'étions pas capables de faire, c'est-à-dire le travail des éléments. Le vent avait effectivement créé une forme de clairière dans cette forêt, avait réorganisé d'une certaine façon le port des arbres et finalement avait donné à ce jardin une dimension naturelle comme jamais nous n'aurions pu la recréer.
Donc il n'était pas tant détruit ce jardin que rendu encore plus proche de sa nature. Alors Dominique Perrault, c'est un chantier dont vous le disiez tout à l'heure, il est monumental, des milliers voire plus d'ouvriers qui travaillent, beaucoup de corps de métier qui travaillent très vite, puisque finalement au regard de la grandeur et de ce projet architectural, le chantier est assez court.
Trois ans.
Vous me coupez si je me trompe, ça me paraît assez court pour ce genre de chantier monumental. Et c'est aussi un chantier qui est très agité par moult débats, par moult polémiques. Comment est-ce que ça rentre en collision avec votre travail, ou est-ce que vous continuez sereinement votre chemin?
Non, les polémiques sont plutôt pendant la genèse du projet, disons, du point de vue du processus architectural et du point de vue de l'ingénierie. Donc pendant les études, ensuite les polémiques cessent presque du jour au lendemain lorsque Jean Favier, est effectivement nommé président des deux bibliothèques rassemblées, Richelieu et Tolbléac. Donc on sort de la polémique, et par contre le chantier, lui, bat son plein. Pourquoi ? Parce que la stratégie, si je puis dire, du point de vue du planning, avait été de créer une grande paroi de béton qui avait pour vocation d'isoler la bibliothèque de son environnement géophysique. Nous sommes 14 mètres, 15 mètres en dessous du niveau de la Seine. Donc autour de cette paroi, à l'extérieur, il y a de l'eau. À l'intérieur de cette paroi, il y a donc de l'eau qui sera pompée, de la terre qui sera évacuée, et l'on va avoir en fait une espèce de grandes caisses, si je puis dire, de béton en périphérie et de sol naturel au centre. Et c'est dans ce vide, dans cette cavité, que va être construite la bibliothèque. C'est-à-dire que la bibliothèque n'a pas vraiment de fondation au sens profond du terme. On pose les tours sur des espèces de talons, de socles de 4 mètres de béton d'épaisseur. Donc on est vraiment protégé sur des sols durs et ce dispositif va effectivement créer donc une première étape qui va accueillir la construction elle-même, et la construction va se dérouler effectivement dans un peu plus de 2 ans, presque 3 ans, donc un temps relativement court pour construire 300 000 mètres carrés balayables et 50 000 mètres carrés d'espace public, donc d'esplanade, donc un rythme rapide avec des moyens importants, avec des corps de métier excellents. Plus de 70 entreprises ont travaillé sur ce chantier. Évidemment, tout le monde retient le nom de Bouygues, qui a été l'entreprise qui a été choisie pour réaliser les grandes structures en béton, qui sont merveilleusement réalisées, très très beau béton. D'ailleurs, au moment de l'inauguration de l'exposition, Tadao Ando est venu nous rendre visite et nous avons caressé ensemble les poteaux de béton de la bibliothèque.
Carrément.
Oui, et ils sont d'un velours délicieux.
Dominique Perrault, on a dit que dans cette exposition, on suivait à la fois ce chantier et vraiment toute l'aventure qu'est l'aventure de cette Bibliothèque nationale de France sur le site François Mitterrand, et qu'on avait la possibilité de voir aussi un petit bout de l'évolution très récente du métier d'architecte et de revenir à des choses qui se font, bon, peut-être pas complètement, absolument rares, mais quand même, que sont les dessins. On écoute à ce propos Paul Andreu.
Chaque architecte a sa manière de faire, mais moi je dessine beaucoup et tout le temps. Et j'ai une espèce de couplage, si j'ose dire, entre ma tête et ma main. Des fois, ma tête est en avant et des fois, c'est la main. Mais c'est au point que, par exemple, si je réfléchis à quelque chose la nuit, je vais dessiner dans le creux de ma main avec mon doigt. Pour me fixer, pour me souvenir de ça, je vais le dessiner dans ma main. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de vérité graphique pour moi, qui peut apparaître comme ça, par effraction, et qu'il faut que je reconnaisse. Alors je fais des recherches extrêmement logiques. Je ne cherche pas dans tous les sens et n'importe où. J'ai toujours quelques bonnes raisons. Et ces bonnes raisons ne me conduisent pratiquement jamais au résultat. C'est des garde-fous. Ça m'empêche de errer. Mais ça ne me conduit jamais au résultat. Ce qui me conduit au résultat, c'est quelque chose que d'un seul coup, je découvre dans le dessin et je me dis, voilà, c'est ça. Et puis après, je le développe.
Le dessin qui révèle par effraction, on entend ici une archive de Paul Andreu en 2007 au micro de Kathleen Evin dans l'émission L'Humeur Vagabonde. Dominique Perrault, je le disais, dans cette exposition, on en voit, et de nombreux, des dessins, alors qu'il s'agisse des premières visions, des tours, de vos premières intuitions de cette bibliothèque, ou qu'il s'agisse aussi des dessins de mobilier, les chaises, les étagères, les tables d'études. Est-ce qu'il y a dans le dessin quelque chose qui se révèle à vous par effraction, pour reprendre les mots de Paul Andreu?
Le dessin, pour moi, c'est aussi un moyen de réduire les informations. C'est-à-dire que lorsque l'on peut résumer, ou tout au moins condenser, concentrer, peu importe le terme, tout le faisceau d'informations et de ressenti aussi. Il y a ce que l'on peut dire et ce que l'on ne dit pas, mais qui porte évidemment l'acte de conception. Le dessin permet d'avoir cette fulgurance du résumé. C'est-à-dire que lorsque c'est possible d'énoncer en quelques traits, en quelques éléments dessinés, un sujet, un propos complexe, on sait que l'on est arrivé à un moment qui est le moment du passage vers le développement du projet. C'est-à-dire que il est prémonitoire, mais insuffisant. D'ailleurs, Paul le dit, il a un certain nombre de garde-fous, que moi j'appelle informations, mais il s'inscrit à un moment comme un élément irréductible. Enfin, pour moi, dans mon travail, c'est-à-dire que comme il y a toujours cette volonté de réduire l'ensemble à des éléments premiers qui vont se développer, mais qui sont capables d'assumer une complexité future en étant irréductible. Donc le dessin, il faut qu'il les dessine, ces éléments premiers.
Et justement, dans vos premiers dessins, est-ce que vous pensez que son contenu, alors à la fois l'architecture de ces tours, éventuellement la maille, les différentes mailles métalliques, mais aussi certaines des étagères, certaines des tables de travail ou des assises, est-ce que vous diriez qu'il y a un dessin qui dessine le reste, justement Dominique Perrault, dans le cas de la BNF?
Oui, il y a un travail par rapport à un travail de géométrie, qui est un travail par rapport à la grille. C'est-à-dire que tout est dimensionné par rapport à 90 cm, 3,60 m, etc., 7,20 m. Et il y a une grille qui est extrêmement présente. Ça ne veut pas dire qu'elle soit toujours visible, mais elle est là, dans les trois dimensions, aussi bien en verticale qu'à l'horizontale, et elle définit l'ensemble des relations des éléments les uns avec les autres, qu'ils soient structurels, qu'ils soient même techniques, qu'ils soient liés au mobilier. Il y a toujours une référence à cet écho dimensionnel qu'on ne perçoit pas, mais qui donne à la bibliothèque une unité de lieu, une unité de lecture finalement, et c'est ce qui est à mon avis le plus réussi dans cette bibliothèque, c'est-à-dire que c'est un bâtiment immense, c'est un bâtiment où il y a des milliers de chaises, des milliers de tables, des kilomètres d'étagères, des espaces qui sont de grande dimension, et malgré tout, elle est unie. Enfin, lorsqu'on est dans la bibliothèque.
Et ça tient, selon vous, à justement cette sorte de grille matricielle qui fait que, par des proportions, par une forme d'harmonie de proportions, quelque chose de la bibliothèque se tient.
Oui. Elle se tient parce que cette matrice, elle touche non seulement, comme je l'évoquais, des questions de géométrie pure, mais elle touche aussi la capacité d'intégrer des programmes. Parce que ce qui est formidable, est c'est-à-dire on n'est pas dans un travail seulement de répétition du point de vue esthétique, sériel, etc. On est aussi dans un travail de capacité que la grille nous apporte. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le numérique. Enfin, ce que je décris là n'est ni plus ni moins la database d'aujourd'hui, avec évidemment des capacités, des possibilités d'intégration programmatique beaucoup plus illimité et qui touche aussi tous les domaines, si je puis dire, de la production. Donc il y a là dans cette écriture que certains qualifient de neutre ou d'écriture blanche, il y a dans cette écriture une attitude qui est une attitude non pas de froideur, parce qu'elle est rigoureuse, cette attitude, c'est vrai, mais ce n'est pas de la froideur. Au contraire, c'est une attitude rigoureuse qui permet d'ouvrir, d'intégrer, d'être en partage avec tous les possibles.
Vous dites c'est quelque chose dont évidemment le lecteur, le chercheur, le visiteur lambda n'a pas conscience, ne connaît pas cette grille ni les calculs Dominique Perrault faits par l'architecte et celles et ceux qui travaillent avec lui. En revanche, ce visiteur, cette chercheuse en a le sentiment. Et je pense que c'est peut-être intéressant qu'on termine par ça si vous voulez bien, à savoir que le savoir architectural n'est pas nécessaire pour un ressenti d'un lieu, un ressenti du bâtiment, un ressenti d'un espace. Est-ce que vous en êtes convaincu, vous qui en disposez de ce savoir-là ?
Ah oui, j'en suis convaincu. Enfin bon, je citerai par exemple Francis Bacon qui disait que l'émotion, lui il était intéressé par l'émotion qui touche le cerveau sans passer par l'intellect. L'architecture, c'est ça aussi. C'est d'ailleurs que l'architecture est par origine et par définition causa mentale. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail de l'esprit, c'est un travail conceptuel, c'est un travail intellectuel, etc. On parle de la géométrie, mathématique également. Mais son incarnation, elle est physique. ce que la chercheuse, le chercheur, celui qui vient, qui travaille ou qui vit quelque part, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va ressentir physiquement, mais physiquement. Et ce passage, c'est ce qui en fait pour moi le plus beau métier du monde, c'est-à-dire cette capacité de passer d'une forme de l'esprit à sa matérialisation. Dans un projet d'architecture, c'est exactement ce que nous faisons.
Oui, mais pas que pour vous, aussi pour toutes les personnes qui
ensuite
joueront
de cet endroit-là. C'est un projet, dans un partage, dans un don. Le projet vous échappe lorsque vous avez fini. Il est à ceux pour qui il a été réalisé. Mais le passage, le processus, est un processus qui nous permet aussi de tenir dans la durée. Parce que par rapport aux artistes, par rapport à d'autres créateurs, nous sommes dans des temps longs. La bibliothèque, c'est le record du monde. Pratiquement 5 ans pour réaliser un bâtiment, 2 ans d'études, 3 ans de chantier, c'est le minimum syndical. On travaille aujourd'hui 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans sur certains projets. Donc, pour tenir dans la durée, en ayant la fraîcheur, la critique sur ce que l'on produit et par rapport aux évolutions, disons, et aux adaptations d'un projet, il faut qu'il y ait ce chemin entre ce que l'on pense et ce qui sera, sera tactile, sera sensoriel, et c'est là où nous vivrons.
Dominique Perrault, on a dit que c'était, et vous le dites à l'instant, un record du monde, et puis vraiment un bâtiment très, très singulier. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, en quelques minutes, quelques secondes, là, parce que c'est vraiment la fin de l'entretien, un regret par rapport à cette bibliothèque? Ou est-ce que vraiment il est conforme à vos espérances?
Non, ça ne se dit pas en termes de regret, mais j'ai une considération. C'est-à-dire une considération par rapport à l'architecture de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est une architecture qui n'est pas forcément très aimée, et pourtant il y a des chefs-d'œuvre. Et donc, je trouve qu'il faut analyser, exposer, étudier toute cette partie de l'architecture du XXe siècle. Car nous avons construit au XXe siècle plus que pendant les 2000 ans de l'humanité précédente. Donc ce n'est pas un détail, c'est vraiment un regard, une attitude, et il faut que toute cette production soit accompagnée par ceux qui en sont les créateurs. C'est-à-dire que il faut utiliser les créateurs pour qu'ils poursuivent d'une certaine façon leur processus, en partage avec ceux qui le vivent au quotidien, et ce rapprochement est souhaitable pour tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés, mais surtout pour que nos villes soient vivantes aussi bien au passé qu'au présent, évidemment, pour qu'on construise ensemble le futur.
Vous avez bien compris. Voilà. Merci beaucoup Dominique Perrault. Donc documentons nos architectures, expérimentons-les et allons profiter du savoir mis en partage dans cette exposition Portrait d'un projet 1988-1998. C'est en ce moment à la Bibliothèque nationale de France. J'ai pas le temps de toutes les énumérer, mais il y a moult événements qui sont autour et qui participent de ce grand partage. On pourra aussi se procurer la monographie, donc vraiment un livre entièrement consacré à ce projet-là. La Bibliothèque nationale de France, Dominique Perrault, Portrait d'un projet, je le répète, ce sera aux éditions X, et c'est à paraître fin juin, début juillet. Il y a un supplément des Beaux-Arts, il y a aussi un livre sur un tout autre projet qui s'appelle Paris, île de la cité 2040, mission 2040. Mais alors là, vraiment, c'est une autre histoire. Every time I look down on this timeless town. Par les temps qui courent, que construire en urgence?
Il faut investir le sol. Il faut absolument définir un périmètre pour nos métropoles, le définir de façon démocratique, s'y tenir et bâtir la ville non seulement sur la ville, mais aussi sous la ville. I love Paris in
the springtime. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture et sur franceculture.fr ou en podcast absolument quand vous voulez. Au son ce soir, c'était Marie le peintre, à la réalisation Olivier Guérin. Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain Debec de Lièvre m'aident à penser cette émission. Il la construit avec moi d'une certaine manière. Et je réponds @ Marie Richeux sur Twitter. I love Paris in the summer.
when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why do I love Paris? Because my love is
because